Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, le duel pour revenir sur les temps forts de la semaine. Et puis en débat ce samedi, un mot, sept lettres, R-E-S-P-E-C-T. Respect avec un point d'exclamation et comme dans la chanson d'Aretha Franklin, un cri de ralliement, une revendication et peut-être plus encore la pierre angulaire d'une éthique de la reconnaissance. C'est ce qui est au cœur d'un essai paru récemment aux éditions des Équateurs, un manifeste qui fait du respect le point de départ et le fondement de toute politique authentique. C'est ce combat que mène la docteure en sciences politiques Agathe Cagé pour réconcilier notre société avec elle-même, surmonter ses lignes de fracture, ses très nombreuses discriminations. Elle viendra nous expliquer pourquoi il faudrait tout reconstruire en partant du respect. Elle qui est engagée à gauche, pourquoi le respect plutôt que la justice ou l'égalité? On en débattra dans une vingtaine de minutes donc avec Agathe Cagé. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous pensez au 15 mai, vous pensez à la libération. Je vous pose la question régulièrement, mais Gilles, je vous vois sourire, heureux.
Heureux. Heureux, non, personne n'est heureux.
Personne n'est heureux en ce moment.
Non, personne n'est heureux. Personne peut être heureux à titre individuel, mais personne n'est heureux de la situation. Et disons, dans l'espoir que le 15 mai sera vraiment le 15 mai.
Le 15 mai, vous l'avez inscrit en lettres rouges dans votre agenda, Natacha ?
Écoutez, nous avons été habitués depuis un an à savoir que ce genre de date fatidique, en fait, est extrêmement flottant. C'est l'horizon, vous savez, c'est la ligne qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Cette fois-ci, nous promettons, c'est la bonne, parce que la stratégie vaccinale va permettre d'amplifier réellement les choses et donc peut-être enfin de se mettre à respirer. Restons prudents malgré tout et regardons concrètement comment se passent les choses.
Moi, je veux y croire. Et justement, Emmanuel Macron, le président de la République, mercredi soir, s'exprimait solennellement et il annonçait donc cette date à venir.
Les efforts d'avril, d'une part, et le déploiement de la vaccination, d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant.
Voilà, c'était donc le président de la République qui était regardé par 30 millions de Français. C'est absolument considérable, autant dire que sa parole était très attendue. Gilles, qu'en avez-vous retenu ?
Écoutez, après avoir vu le président de la République et écouté le président de la République, comme 30 millions de Français, je l'ai relu. Et retrouvant mes amours anciennes de plumes, je trouve que l'analyse de la rhétorique de ce discours est intéressante parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses qui sont des choses classiques dans des discours politiques. Vous essayez de créer un lien avec votre auditoire et donc c'est une alternance entre le je et le nous. Vous rendez hommage aux Français, vous remerciez un certain nombre de catégories. Vous essayez, surtout quand vous annoncez des choses difficiles, de tracer des perspectives après la pluie, le beau temps. C'est cette fameuse date du 15 mai que vous avez évoquée. Vous cherchez des images qui permettent d'être retenu, et c'est là aussi celle qui était dans cet extrait, celle de la tenaille. Vous inventez parfois des ennemis. Ainsi, lorsque le président de la République parle de ces militants de l'attestation contre lesquels il a résisté et que, sans doute, un manque d'attention, mais que je n'avais pas vu, dont je n'avais pas vu l'activité. Donc ça, ce sont des choses qui sont des choses classiques. Et ce que je trouvais plus intéressant, c'était ce qu'était sa stratégie de défense.
Oui.
Parce que c'est toujours un exercice difficile de reconnaître des erreurs pour un responsable politique et c'est encore plus difficile dans cette période lorsque Angela Merkel, de son côté, l'avait fait de manière très claire et que, à l'inverse, Emmanuel Macron avait dit qu'on avait, dans l'ensemble, bien fait les choses. Et je trouvais que là, on avait vraiment du Emmanuel Macron tel qu'en lui-même, c'est-à-dire qu'il avait assumé autant qu'il est possible. On a bien fait le 29 janvier en ne fermant pas. On a des premiers effets des mesures qui ont été annoncées dans les 16 départements. On n'a jamais perdu le contrôle. On a appris, on s'est amélioré. Et il y a quand même des concessions à minima. Les rendez-vous qui ont tardé pour les personnes âgées, mais maintenant les mesures ont été prises. Le retard qui est reconnu, mais qui a été, mais évidemment les choses ont été corrigées. Et ce qui était d'un point de vue rhétorique le plus intéressant, les retards de vaccination de l'Europe sur lesquels, dit-il, nous pourrons revenir, mais comme ce n'était pas une interview mais une allocution, eh bien nous n'y sommes pas revenus.
Natacha Polony.
J'ajouterais à tout ce que vient d'analyser Gilles, le fait que tout le début du discours est centré sur un point essentiel, démontrer que les médecins qui exigeaient le confinement immédiat n'avaient pas forcément raison. Et il y avait véritablement quelque chose de frappant dans ce face-à-face d'Emmanuel Macron avec ceux parmi les médecins qui étaient les plus, comment dire, les plus sévères sur le choix qui avait été fait en janvier.
Oui.
Et de fait, c'est logique parce que c'est un débat crucial dans le sens où on a entendu cette musique ces derniers jours qui consistait à dire puisqu'Emmanuel Macron est obligé de fermer les écoles, c'est qu'il aurait fallu le faire avant. Or, ce n'est pas parce qu'on le fait maintenant qu'il fallait le faire avant. Et je pense que toute la question première était de savoir comment équilibrer les choses. Par exemple, là, sur la fermeture des écoles, de nouveau, on est revenu sur un débat sur la question de savoir si l'enseignement à distance peut être efficace, quels seront les décrochages,
oui.
Ce qui est une question majeure. Mais vous avez immédiatement des gens qui disent « Enfin, regardez, c'est pour 3 jours, donc pourquoi s'affoler pour ça ?»
Oui, 3 semaines. Alors,
3 jours d'enseignement à distance,
oui.
Puisque ensuite 2 semaines de vacances. Sauf que justement, ce ne sont que 3 jours parce que Emmanuel Macron a choisi de ne le faire que maintenant. Et je pense que les...
Et ça, vous approuvez ?
Ça, j'approuve. J'approuve parce que je pense sincèrement que les décrochages de nombreux enfants, en particulier les plus défavorisés, ou en tout cas, disons, des décrochages dans tous les milieux sociaux, mais ce sont les enfants de milieux défavorisés qui auront le plus de mal à s'en relever, c'est quelque chose d'essentiel et qui ne peut être négligé parce que s'il y a des vies en jeu, celles-là le sont réellement.
Oui.
Mais j'ajoute un point. La stratégie d'Emmanuel Macron ne tient que s'il a des moyens derrière, d'où toute la partie du discours qui touche la stratégie vaccinale. Quand on écoute, même en étant extrêmement, indulgent avec le gouvernement et avec l'ensemble du processus de stratégie vaccinale, on ne peut pas s'empêcher d'être effondré à l'idée qu'il en soit encore à dire qu'il faut pousser les plus de 75 ans à se faire vacciner. C'est-à-dire quel retard terrible. Même si l'on se dit que de nombreuses doses vont arriver dans les jours qui viennent, Gilles a souligné qu'il faudrait revenir, enfin que le président dit qu'il faudrait revenir sur les erreurs de l'Europe. En effet, on attend toujours. Et dernier point, il y a des outils. Ces outils sont nécessaires. Là, actuellement, par exemple, on est en train d'ergoter au ministère de la Santé pour savoir si on doit autoriser ou non les autotests. Il me semble que de se dire qu'au bout d'un an et au bout d'un troisième confinement qui n'est pas vraiment un confinement, etc., en être encore à se demander si l'autotest, les Français sauront bien l'utiliser, du coup, est-ce que ça ne va pas être utilisé à mauvais escient ? Pardon, mais je trouve ça effarant.
Il devrait être disponible en pharmacie.
Voilà, mais des pays voisins les utilisent déjà et entendre à nouveau l'argument de la bêtise des gens qui ne sauront pas s'en servir me semble étonnant dans la mesure où justement tout le choix d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner au mois de janvier s'appuyait sur l'idée qu'il fallait utiliser la responsabilité des individus, les outils qui sont à notre portée pour essayer de limiter la circulation du virus.
Gilles.
Oui, Natacha Polony soulignait cette espèce de face-à-face entre Emmanuel Macron et les médecins qui apparaissait au travers de cette allocution. La question de savoir si c'était une erreur de ne pas confiner plus tôt et de ne pas confiner en janvier est une question qui est indémontrable. On avait déjà eu exactement le même débat à la fin du mois de janvier avec Natacha Polony. Nous étions plutôt en désaccord. Le président de la République dit que là où il y a eu un confinement plus tôt, il y a eu des reconfinements. Même si, quand on regarde par exemple l'Allemagne, on voit que le taux d'incidence est beaucoup, beaucoup plus faible en Allemagne qu'il ne l'est en France. Ce qui me semble malgré tout, c'est que si on avait pris des mesures plus tôt, elles auraient sans doute été mieux acceptées et sans doute mieux appliquées si on avait fait pendant les vacances de février ce que l'on allait faire pendant les vacances du mois, les vacances de Pâques. Ça aurait sans doute été plus facile, et que si on avait fait baisser le nombre de contaminations, eh bien, la courbe ne serait pas au même niveau. Bon, mais c'est indémontrable. En revanche, ce qui, je crois, est indiscutable, c'est que c'est un échec au sens où le président arrive là où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire dans des mesures générales. Et puis, je termine par là, une inquiétude quand même sur l'application par les Français. C'était très frappant lorsque vous regardiez les enquêtes qui ont été faites après l'allocution du président de la République. Dans l'ensemble, les mesures sont approuvées. Les Français, dans le même temps, ne font pas confiance au gouvernement pour gérer la crise sanitaire. Ils pensent que les mesures seront inefficaces, et la moitié d'entre eux seulement disent qu'ils veulent les appliquer complètement.
Comment expliquer ce paradoxe ?
Inquiétude sur les Français, et inquiétude, et c'est l'inquiétude peut-être la plus importante, qui est celle sur la mise en œuvre, encore une fois, des mesures par l'État, et notamment de ces 3000 lits de réanimation supplémentaires dont on se demande pourquoi ce n'était pas plus tôt et dont on se demande si on va réussir à le faire cette fois.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Présider et gouverner, ce sont deux choses très différentes. Quand on gouverne, on prend chaque jour un très grand nombre de décisions. Et on espère que de cette multitude de décisions va s'extraire, ou en tout cas va se révéler, une forme de cohérence dans l'action publique. Parce que c'est cette cohérence qui garantit l'efficacité. Alors que présider, ça exige au contraire de tracer une ligne très claire et de vérifier que toutes les décisions qui sont prises par ailleurs correspondent à cette ligne très claire.
Vous avez évidemment reconnu la voix de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui s'exprimait sur le site du magazine Le Point mercredi dernier. Il est d'ailleurs en couverture de ce magazine avec cette citation « J'aime être aux manettes », un grand entretien et des extraits de son livre « Impressions et lignes claires » coécrit avec son ami et conseiller Gilles Boyer, eurodéputé. Dans ce récit, on a l'impression que l'ancien Premier ministre raconte beaucoup de choses, mais qu'il prend malgré tout plaisir à brouiller les pistes, Natacha, puisque la question que rêvent de lui poser tous les journalistes, en tout cas d'obtenir une réponse claire, un oui ou non, c'est sera-t-il candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine ?
Oui, je pense que votre question résume un élément, c'est-à-dire que la position, j'allais dire la posture d'Édouard Philippe dans cette interview tient beaucoup à l'attente des journalistes, c'est-à-dire que c'est un jeu à deux. Et je suis assez frappée de cette tendance journalistique récurrente qui consiste à attendre l'homme providentiel et à parfois chercher à le susciter. C'est-à-dire que, et on sent bien d'ailleurs qu'il y a un flou à droite, puisqu'on voit bien les unes du Point, deux unes consécutives, l'une sur Xavier Bertrand, l'autre sur Édouard Philippe, qui à chaque fois dénote le fait que les journalistes se demandent et si c'était lui le bon, est-ce que ça va marcher et est-ce que ça ne pourrait pas être un espace politique, à ceci près que la question n'est pas posée en termes d'espace politique mais en termes de personnes. Et il est très intéressant de voir que Le Point publie un sondage assez poussé à côté de l'interview d'Édouard Philippe et que dans ce sondage on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait il n'y a pas d'espace politique. Édouard Philippe est extrêmement populaire, mais il l'est essentiellement auprès des électeurs d'Emmanuel Macron et des électeurs de droite, ce qui, pour partie d'ailleurs, se confond largement. Et que donc, il ne peut avoir d'espace que si Emmanuel Macron ne se présente pas. Il serait très étonnant de le voir se lancer dans un duel, et il y aurait quelque chose d'ailleurs de très contre-productif. Donc on ne comprend pas très bien à quoi sert cette espèce de dévoilement, c'est véritablement au sens de danse des voiles, oui. Qui en fait ne fait qu'entretenir une forme de mythe, peut-être pour plus tard. C'est de la part d'Édouard Philippe visiblement une assurance pour l'avenir, mais pour le reste, est-ce que ça apporte beaucoup au débat politique ? Je ne sais pas.
En tout cas, il y a eu donc la publication de ce livre, ce numéro quasiment spécial du Point, où il est en majesté, mais Laurence Bloch, notre patronne aussi, est en majesté dans le Point, avec un papier beaucoup plus objectif, puisque ça, c'était mérité. Voilà, j'ai fait mon faillot, mais en l'occurrence, Gilles Finkelstein, vous avez lu évidemment Le Point. Édouard Philippe sera demain aux 20h de France 2. Est-ce que vous partagez l'avis de Natacha, c'est-à-dire qu'on fabrique, l'homme providentiel avec cette question « Pourquoi pas lui ?» ou « Si c'était lui ?»
Édouard Philippe est sans doute la seule personnalité qui est émergée depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui est émergée comme un possible présidentiable. Donc ça justifie qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Je vais reprendre l'image du voile qu'a utilisé, ou des voiles qu'a utilisé Natacha. Je crois qu'il y a un voile qui a assombri, sans qu'on s'en aperçoive nécessairement, les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Du côté d'Édouard Philippe, il a conçu son éviction comme une injustice. Il a eu le sentiment que c'était lui qui tenait la Maison France avec un président qui était souvent imprévisible. Et il a été victime d'un long supplice chinois avant d'être renvoyé. Mais du côté d'Emmanuel Macron, il y a eu aussi sans doute un sentiment d'injustice devant la popularité d'Édouard Philippe, qu'il considérait comme injustifié au sens où beaucoup d'erreurs du quinquennat était redevable à Édouard Philippe, qui était trop rigide avec les 80 km/h, trop idéologique avec les retraites, trop prudent au moment du déconfinement, et pis encore, qui a construit sa popularité pendant la crise sanitaire, d'une certaine manière, contre Emmanuel Macron. Donc, tout ça s'est terminé avec une relation qui était bonne et avec ce voile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Édouard Philippe a un sentiment de liberté. Et on le voit dans la formule que vous avez passée, quand il dit gouverner et présider.
Présider et gouverner, ce sont deux choses différentes. Présider exige de tracer une ligne claire. C'est une critique en creux d'Emmanuel Macron.
C'est une critique en creux de l'exercice de sa fonction par Emmanuel Macron, qui très souvent est allé sur le terrain du Premier ministre, c'est-à-dire sur des décisions quotidiennes et pas seulement sur ces lignes claires. Donc, il a un sentiment de liberté. Mais en même temps, quand vous disiez on a le sentiment qu'il brouille les pistes, ou ce que disait Natacha, le problème c'est que c'est une liberté qui est entravée. C'est la première fois depuis très très longtemps qu'un Premier ministre est remercié pendant le premier mandat du président, alors même qu'il est populaire, et aujourd'hui c'est une espèce de présidentiable sans présidentiel. Soit il est dans une stratégie de substitution à Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire à Emmanuel Macron ce que Emmanuel Macron a fait à François Hollande, et il ne semble pas que ce soit son tempérament.
Oui.
Soit il est dans la continuation d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'une certaine manière d'être le Georges Pompidou de Charles de Gaulle. Le problème, c'est que le calendrier est très long, puisque tout ça, c'est après un hypothétique deuxième mandat, et donc, on ne sait pas trop. Il a un capital qu'il essaye de faire fructifier, mais on ne sait pas trop pourquoi.
Natacha ?
Encore une fois, Gilles a souligné l'espèce de, c'est-à-dire de malentendu qui préside à tout cela et qui est le fait que Édouard Philippe réussit à faire oublier qu'il incarne finalement ce que beaucoup de gens ont détesté chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette forme de technocratie coupée des réalités, de la vie véritable des citoyens, une forme de technocratie sûre d'elle-même qui considère qu'on doit faire le bien des peuples malgré eux, et contre eux parfois.
C'est ce que vous avez ressenti, parce que quand on lit certaines pages du livre, et notamment les bonnes feuilles publiées dans Le Point, il y a aussi cette dimension dans le récit de ces années passées à Matignon, l'idée que gouverner, c'est avoir peur que Notre-Dame brûle puis s'effondre, avoir peur de devoir ordonner le feu contre une attaque par aéronef contre la France, avoir peur de manquer de médicaments. Enfin, il y a aussi une dimension malgré tout humaine.
Mais bien sûr, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir. Édouard Philippe est indéniablement un homme non seulement cultivé, mais très fin, et qui du coup a bien compris à quel point le récit de l'humanité du gouvernant était aujourd'hui nécessaire, et il le fait formidablement. Le problème n'est pas là, c'est que ses doutes tiennent à des moments qui sont des moments de crise, des moments cruciaux où l'on se retrouve face à l'événement, ce qui arrive et qui ne pouvait pas être prévu.
Oui.
Comme l'incendie de Notre-Dame. En revanche, ce à quoi je fais allusion quand je parle de la technocratie sur d'elle-même, c'est sur tout le reste. c'est sur les choix essentiels, c'est sur la direction à prendre. Quand il parle de la ligne claire, mais la ligne claire que lui-même dessine est celle de la continuation de tout ce qui a été fait depuis des années et une forme d'amplification, c'est-à-dire qu'on a l'impression que pour ce qui est de sa vision de la France et du monde, il n'y a strictement rien de neuf et rien qui vienne ébranler les certitudes qui étaient les siennes. Et c'est tout le paradoxe de cette humilité face à la lourde charge, tout en étant persuadé d'avoir eu raison sur des choses qui ont braqué les 80 km/h de ce point de vue-là, étaient éminemment symboliques dans le mépris qui a pu être ressenti par une part des Français et que Édouard Philippe n'a absolument pas vu. Il y a des récits de conseils des ministres qui sont absolument ravageurs sur la façon dont Édouard Philippe ne voyait pas à quel point il était coupé des Français. Je pense que je ne pense pas qu'il en ait conscience encore aujourd'hui.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Gilles Finkelstein, vous vouliez parler de l'Europe et en l'occurrence du couple franco-allemand et vous avez été interpellé, et je le signale puisque c'est vous qui avez proposé ce thème, vous avez été interpellé par la manière dont le magazine Marianne, donc le magazine de Natacha, avait traité de cette question avec une couve qui formule les choses très simplement. Comment l'Allemagne tond la France et l'Europe ? Qu'est-ce qui vous a interpellé, Gilles, avant de laisser la parole à la Défense et donc à Natacha ?
Écoutez, que la nouvelle génération de responsables politiques allemands fasse davantage prévaloir ou essaye de faire davantage prévaloir les intérêts de l'Allemagne que les générations précédentes, je crois que c'est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas des Allemands, c'est le cas de l'ensemble des responsables politiques dans le monde. Que les procédures de décision en Allemagne soient très différentes, et parfois nous les louons d'ailleurs, en tout cas plus lentes, plus complexes que chez nous, c'est vrai aussi. Qu'il y ait des décisions solitaires qui aient été prises par l'Allemagne ces dernières années, c'est vrai également, on l'a vu même il y a quelques jours avec la suspension de l'AstraZeneca, mais on l'avait vu sur des sujets qui étaient beaucoup plus lourds avec la reconnaissance de la Croatie ou avec l'ouverture des frontières lors de la crise des migrants, donc parfois pour le meilleur ou parfois pour le pire. Donc tout ça est vrai. Mais pour le reste, je dois dire que je suis assez largement en désaccord, ce qui ne va pas surprendre Natacha avec cette une. Je suis en désaccord avec les mots c'est le style de Marianne, le style particulier de Marianne, mais la référence à la grosse Bertha ou l'Allemagne qui tond la France, je suis pas sûr que c'est ce qui ait été de plus heureux, mais surtout avec le fond, c'est-à-dire l'idée que l'Allemagne défend ses intérêts et obtient systématiquement gain de cause. Je crois que ce n'est pas totalement juste. Je vais en prendre simplement une illustration.
Oui, un exemple.
Une seule illustration concrète sur les questions économiques. L'Allemagne ne voulait pas de l'euro. On a l'euro. L'Allemagne ne voulait pas que la Banque centrale abreuve de liquidités et rachète les dettes des États pendant la crise de 2008-2010. Ça a été fait. L'Allemagne ne voulait pas que la Grèce reste dans l'euro. On l'a obtenu. L'Allemagne, davantage encore, ne voulait pas qu'il y ait un endettement commun. Ça a été fait. Donc, pour beaucoup d'Allemands, en fait, la critique qui est faite est exactement la critique symétrique, c'est-à-dire que l'Europe est beaucoup trop une Europe française. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là, mais en tout cas, l'idée que l'Allemagne tond la France, je pense que ça va un peu trop loin.
Natacha, en quelques mots, avant d'accueillir notre invité, Agathe Cagé.
En quelques mots, premier. D'abord,
parce que le sujet est passionnant et pour le coup, on aura l'occasion d'y revenir.
Et le sujet est très important et nous ne le faisons pas par hasard maintenant. C'est-à-dire que, bien sûr que le dossier rappelle tous les points qui ont été des points problématiques. Et Gilles, vous dites que l'Allemagne ne voulait pas de l'euro, mais l'Allemagne a négocié en effet de façon à ce que finalement l'euro soit une forme de Deutschmark. C'était un donnant-donnant dans lequel sans doute Mitterrand a commis une erreur historique majeure qui était d'accepter, pour convaincre l'Allemagne d'accepter l'euro, d'accepter que cet euro ne soit qu'une traduction du Deutschmark. Nous en parlons d'ailleurs dans le dossier. Mais pourquoi nous le faisons maintenant ? Parce qu'actuellement, il est en train de se passer des négociations, par exemple, sur la défense européenne, sur l'armement européen, l'avion du futur, les chars du futur, dans lesquels, En fait, nous voyons une lutte industrielle farouche entre la France et l'Allemagne. Et pour le dire de façon un petit peu résumée, il y avait différents implicites dans la construction européenne depuis des décennies. Premier implicite, l'Allemagne avait une forte puissance industrielle, la France avait une puissance agricole et quelques industries de pointe dans des domaines précis, l'armement, l'aéronautique, également le nucléaire. Or, c'est cet équilibre-là qui est en train de se rompre. Et évidemment, le titre est provoquant.
Ne refaisons pas toute l'histoire. Oui.
Non, je ne refais pas l'histoire, mais justement, c'est en train de se jouer. C'est-à-dire que là, actuellement, dans les négociations sur l'avion du futur, eh bien, normalement, dans ce genre de négociations, quand on se met à deux, celui qui a la meilleure technologie dans un domaine est le leader et l'autre est leader dans le domaine où il prévaut. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer, au point que l'entreprise Dassault a alerté sur le fait que petit à petit, le déséquilibre était en train de se créer et que la France, on va le dire très clairement, en fait, la France risque de perdre le leadership en Europe sur ces sujets-là.
Et donc le débat est lancé, il est passionnant.
J'ajoute juste un truc, sur l'agriculture, même chose, sur le projet de démantèlement d'EDF qui est essentiel, le projet Hercule, c'est la Commission qui réclame ce démantèlement, évidemment poussé par l'Allemagne. Sur le nucléaire, c'est la même chose.
Natacha.
Voilà. Ce sont des sujets dont personne ne parle. C'est essentiel.
Et c'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on puisse en parler, notamment aujourd'hui, même rapidement. Et donc, on reprendra évidemment ce débat entre Gilles et vous à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Agathe Cagé.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Et en débat ce samedi, le droit au respect, ce qui est au cœur d'un manifeste paru récemment aux éditions des Équateurs. Un vrai cri de combat contre le poison de l'indifférence, contre le mépris. J'ouvre les guillemets, contre des décennies de mauvaises pratiques politiques. C'est la course infernale du toujours moins d'attention aux autres, de services publics, de fraternité qu'il faut arrêter. Le combat pour le respect, c'est le combat pour que chacun puisse se dire « je suis important » et je ferme là les guillemets. C'est ce qu'on peut donc lire dans un livre qui vient de paraître et que signe notre invité. Elle est docteur en sciences politiques, présidente de l'agence de conseil en stratégie Compass Label. Engagée à gauche, elle a été secrétaire générale de la campagne présidentielle de Benoît Hamon en 2017. Bonjour Agathe Cagé.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous publiez « Respect » avec un point d'exclamation comme dans la chanson d'Aretha Franklin. C'est un essai stimulant et qui pose beaucoup de questions et notamment l'une d'entre elles qui est vraiment passionnante. Peut-on refonder la politique en partant de cette notion de respect? Autrement dit, est-ce que la politique peut commencer ou doit commencer par une éthique de la considération? Vous allez en débattre avec Gilles et Natacha, mais pourquoi être parti de cette notion-là, celle de respect, plutôt que celle d'égalité, par exemple, de justice, par exemple, d'autres termes, d'autres objectifs? Vous avez privilégié celui-là.
Je pars de la notion de respect parce que par le respect, on va arriver à l'égalité, on va arriver à la justice, et que le respect peut être vraiment au fondement d'un nouveau projet politique à proposer aux citoyens, à construire avec eux et à partager avec les citoyens. Aujourd'hui, depuis 12-13 mois, on parle de confinement, on a été confinés 3 fois, mais la réalité, c'est qu'aussi, on a tendance, individuellement et collectivement, comme société, à être confinés dans nos têtes, à ne plus regarder que les gens qui sont tout près de nous, autour de nous, que les gens qui nous ressemblent, à ne plus regarder les autres personnes, soit parce qu'elles sont un peu éloignées de nous, dans leur singularité, dans leurs différences. Et depuis quelques mois, on voit monter encore plus qu'avant la problématique de l'indifférence, oui, du manque de considération, voire même du mépris.
Vous citez Shaw, par exemple, le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr, mais de les traiter avec indifférence. C'est là l'essence de l'inhumanité. C'est ce qui caractérise, selon vous, notre société. Et vous faites la liste de toutes les discriminations, et elles sont nombreuses, qui parcourent notre pays, notre société. Discrimination raciale, sexuelle, territoriale. J'arrête là la liste parce qu'elle est longue et qu'on peut la retrouver dans votre livre, évidemment. Vous dites que les mécanismes sont toujours les mêmes, mais malgré tout, en quoi est-ce que c'est une question politique et pas une question tout simplement, comment dire, éthique, de morale, traiter son prochain avec respect?
C'est une question qui est politique parce que bien sûr, il y a une question d'éthique individuelle. Et dans ce livre, Respect, j'appelle chacun à s'interroger sur sa propre éthique, sur sa tendance à aller vers de l'indifférence. Et j'appelle chacun à faire prévaloir la considération et l'attention à l'autre sur la facilité de l'indifférence et sur la facilité du mépris. Mais c'est aussi une question politique parce que le sujet, derrière le sujet de l'éthique du respect, de l'éthique de la reconnaissance, oui, c'est comment créer une société dans laquelle chacun se voit reconnu, une estime, chacun se voit reconnu comme ayant une place, un rôle à jouer dans la société et surtout comment construire une société d'égaux en droit. Or, le problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de personnes dans des situations différentes qui ne se sentent pas reconnues dans leurs droits comme ayant les mêmes droits que les autres personnes. Et ce sujet est éminemment politique.
Et c'est une question qui vous a intéressé, notamment la question de la considération, Natacha.
Oui, je pense que cette question, en fait, nous ramène au cœur des problématiques politiques actuelles, c'est-à-dire la possibilité d'organiser une société vivable qui articule l'individuel et le collectif. Ce qui m'étonne un petit peu, Agathe Cagé, c'est que vous dites que le combat, donc, c'est pour que chacun puisse se dire « je suis important ». Mais justement, le principe du respect, c'est le fait, d'ailleurs c'est étymologique, respectare, regarder l'autre une deuxième fois, donc avec attention. Ce n'est pas se regarder soi-même. Et il y a là, à mon avis, un malentendu qui me semble assez intéressant. Parce qu'en fait, pendant des siècles, le respect, c'était en effet quelque chose qu'il fallait conquérir parce que cela naissait de l'organisation, sans doute trop collective, des sociétés dans lesquelles on n'existait que sous le regard des autres. Nous sommes actuellement dans un moment historique où les individus réclament le respect parce qu'il y a cette demande de considération que vous identifiez, qui en effet se justifie, mais qui fait pencher la balance dans le sens de l'individuel. Il me semble qu'en fait, c'est la dialectique entre les deux qui est essentielle. C'est le fait de réussir à regarder l'autre. D'ailleurs, vous le dites à un moment, c'est un mouvement où on regarde l'autre et l'autre peut-être vous regardera, mais ce n'est pas sûr. Or, j'ai l'impression que en mêlant les questions, j'allais dire, de faille narcissique, le fait que chacun ne se sent pas assez important, avec la question politique de l'égalité des droits, vous passez à côté de ce risque que nous fait courir l'idée que chacun va réclamer plutôt que de se construire dans une collectivité.
Non, Agathe Cagé.
Natacha Polony, c'est pas du tout pour moi une question de faille narcissique. Et la base de cet essai sur le respect, c'est de dire d'abord, on a un engagement individuel à prendre, un devoir, c'est ne pas attendre de réciprocité. Il faut respecter les autres sans demander au préalable quelque forme de respect que ce soit. Ensuite, quand je dis chacun a... Construire une société aujourd'hui, c'est permettre à chacun, notamment notre jeunesse, à chaque individu de pouvoir se dire « je suis important ». Ça veut dire proposer un projet politique dans lequel chaque individu, bien sûr, s'insère dans un collectif, mais dans lequel chaque individu a la possibilité d'avoir une vie qui soit une vie dans laquelle il a une forme de valeur sociale et dans laquelle il se sente reconnu, une forme d'estime sociale. Or, aujourd'hui, le problème est un problème qui n'est pas individuel, c'est un problème qui est collectif.
Mais quand vous dites « je suis important », la possibilité de prononcer cette phrase et que pointait du doigt Natacha Polony à l'instant quand elle parlait de cette faille narcissique, justement, qui est permanente, pourquoi est-ce que vous comment est-ce que vous y répondez, Agathe Cagé?
« Je suis important », c'est une phrase que dit Michelle Obama dans sa biographie, et c'est vraiment ça qui lui a permis de se construire en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'on lui a dit « en fait, tu es né comme tout le monde à un endroit, dans une famille, avec certaines chances sociales et économiques, pas d'autres, mais tu as quand même le droit d'avoir un horizon ouvert devant toi, et cet horizon ouvert, ça t'ouvre la possibilité de construire la vie que tu veux. » On n'est pas du tout dans la question des failles narcissiques, pour moi, on est dans la question de la possibilité donnée à chacun. Une personne âgée, un urbain, un rural, quelqu'un qui est né en Guyane, un Mahorais, quelqu'un qui vit à Paris, d'avoir un horizon de possible ouvert devant lui, d'avoir un horizon de possible ouvert, c'est-à-dire de pouvoir se construire avec les mêmes chances que les autres, d'avoir un horizon de possible ouvert, c'est aussi de ne pas faire l'objet, de ne pas entendre une forme de mépris social s'exprimer sur ce qu'il est, ce qu'il vit. C'est ce qui a été aussi au fondement du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement collectif. Pourquoi c'est un mouvement collectif? Parce que des individus se sont réunis sur des ronds-points, se sont rendus compte que leurs difficultés n'étaient pas des difficultés desquelles ils devaient avoir honte, mais des difficultés finalement qu'ils partageaient. des individus se sont réunis pour se dire on peut être fier de ce qu'on est, nos valeurs, de la vie qu'on construit, de ce qu'on transmet à nos enfants malgré nos difficultés. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des gilets jaunes. Pas pour dire regardez-moi individuellement, mais pour dire regardez collectivement, nous avons une vie qui vaut autant la peine que les autres d'être regardés et d'être vécus.
Natacha.
C'est tout le problème, en fait, de du non-respect de la promesse républicaine. Et je vous rejoins sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes était avant tout un mouvement de remise en place de cette idée fondamentale, de cette question sociale, c'est-à-dire la nécessité d'une égalité territoriale, d'une égalité de droit. Sauf que justement, il y a peut-être un indice assez intéressant qui montre la difficulté des choses. C'est qu'au tout début, quand ce mouvement est apparu, il y a toute une part de la gauche qui a été extrêmement méfiante. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que, moi, ce sont les arguments que j'ai entendus et qui ont été développés, c'était un mouvement trop blanc. Donc, justement, il y avait un soupçon de discrimination, un soupçon d'entre-soi. Alors que, en fait, ça n'importait pas, c'était la question sociale qui revenait sur le devant de la scène. Or, il me semble que, justement, dans votre livre, vous mêlez la violence sociale qui se manifeste en effet de façon nouvelle aujourd'hui, il y a une déstructuration des sociétés qui est éminemment dangereuse, avec la question de la lutte contre les discriminations, dont on a l'impression en vous lisant que que les discriminations elles aussi seraient en train de s'amplifier, alors que on peut se réjouir au contraire d'être dans une phase de petit à petit de lutte amplifiée contre ces discriminations.
Alors laissez Agathe Cagé
vous
répondre.
Comme si les deux mouvements allaient ensemble, alors ils ne fonctionnent pas de la même manière.
Agathe Cagé.
La lutte contre les discriminations de Natacha Polony, bien sûr qu'on peut se réjouir qu'elle aille dans un sens de progrès. Ensuite, quand vous lisez sur les discriminations fondées sur l'origine, quand vous lisez le dernier rapport du défenseur des droits, Jacques Toubon, il dit il y a urgence à agir parce que la situation s'aggrave et qu'on n'a pas assez de mesures concrètes. Quand vous regardez la question de l'égalité entre les femmes et les hommes... Heureusement qu'on a fait des progrès sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais au rythme actuel sur la parité dans le monde du travail, on en a pour 202 ans pour arriver à une forme de parité.
Oui, vous
voyez, on peut
peut-être essayer
d'accélérer...
C'est pas la même chose que l'amplification de la violence sociale.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec une éthique du respect, on peut proposer un projet de société dans lequel chacun se reconnaît. On peut proposer un projet de société dans lequel ceux qui font l'objet d'une violence sociale, on leur propose de dépasser cette situation. Et on peut aussi traiter parallèlement, parce que les deux ne se confrontent pas, les deux peuvent aller ensemble, la question essentielle de la lutte contre des discriminations, qui sont des discriminations qui ont des origines extrêmement diverses.
Et vous citez d'ailleurs Didier Fassin, Christophe Guilluy, sur l'idée de vie dévalorisée, de vie abîmée. C'est intéressant, Gilles, parce que vous qui avez lu le livre, vous vouliez aussi vous arrêter sur cette traduction politique ou la traduction concrète que pourrait prendre la notion de respect.
Oui, je voudrais en fait c'est interroger la thèse centrale, c'est-à-dire le côté structurant aujourd'hui et même prédominant de la question du respect. Cette demande de respect, en fait, est une demande ancienne. Les auditeurs qui étaient déjà des électeurs à la fin du siècle dernier lors des élections législatives de 1997 se souviennent peut-être que au-delà des deux propositions phares qui étaient de Lionel Jospin, qui étaient les 35 heures et les emplois jeunes, le mot qui avait dominé toute la campagne, qui avait structuré toute la campagne, était le respect en contrepoint.
Ah oui ?
Ah oui, absolument, en contrepoint justement d'Alain Juppé qui incarnait une forme d'arrogance. Donc c'est une demande qui est ancienne et la question que je me pose c'est est-ce que la question qui est aujourd'hui prédominante n'est pas, non pas le respect mais la reconnaissance, et que ce n'est pas exactement la même chose. Le respect d'une certaine manière est un peu plus passif, la reconnaissance suppose une action, la reconnaissance suppose que la collectivité reconnaisse l'utilité sociale des infirmiers, des personnels médicaux en créant des postes ou en créant des lits, que l'employeur reconnaisse la qualité du travail des salariés en augmentant les rémunérations, que la France, vous le citez, reconnaisse la bravoure de Lassana Bathily, un des héros de l'hypercachère, en lui attribuant la nationalité française. Donc il y a une dimension plus active dans la reconnaissance qui n'est pas plus facile à honorer, mais est-ce que ce n'est pas ça, et c'est un peu l'interrogation que j'ai, la question centrale aujourd'hui, davantage que le respect, même si vous les traitez parfois de manière synonyme.
Agathe Cagé.
je pense qu'il faut avancer sur les deux. Je parle de respect, je parle de reconnaissance, pour dire qu'on a une responsabilité qui est une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. La responsabilité individuelle, ça entraîne finalement l'exigence pour chacun d'entre nous d'essayer de respecter les autres, d'essayer de dépasser l'indifférence, d'essayer d'aller vers davantage de considération et d'éviter toutes les formes d'expression du mépris. Et bien sûr, il y a la dimension collective, d'action public de la reconnaissance, avec une double exigence, celle de construire des politiques publiques de reconnaissance. Vous citiez la reconnaissance du travail d'un certain nombre de personnes, c'est aussi la reconnaissance dans la qualité de vie qu'on peut apporter à des personnes qui habitent dans le milieu rural, dans le milieu périurbain, c'est la reconnaissance qu'on doit apporter en tant que société à nos personnes âgées qui ont souffert d'une forme de manque de reconnaissance quand, avec le choix de fermer les entrées et les sorties des EHPAD, on leur a pas demandé
oui,
en tant qu'individu
on
leur a pas demandé ce qu'ils souhaitaient en tant qu'individu en matière de protection de leur santé. On les a vraiment infantilisés, on les a minorisés. Et puis, la reconnaissance, c'est aussi une question aujourd'hui pour moi centrale de quelle forme d'expression dans la parole publique et dans la parole politique.
Et justement, je voulais qu'on y vienne.
Parce qu'on a pour moi une double faille aujourd'hui.
Oui.
La parole politique a perdu à la fois de sa valeur et elle a perdu d'une certaine manière aussi de sa superbe. Et c'est au fondement de la crise démocratique qu'on connaît.
Et justement, vous êtes assez sévère sur un certain nombre d'acteurs politiques et d'acteurs du débat public également. Je rappelais tout à l'heure que vous avez participé à la campagne de Benoît Hamon. Gilles parlait de la campagne législative victorieuse de Lionel Jospin en 1997. Aujourd'hui, on voit une gauche en miettes. On est à un an de l'élection présidentielle avec une gauche qui est profondément fracturée. Et vous tapez fort, par exemple, sur Manuel Valls. Vous citez Arnaud Montebourg, vous citez des scènes de campagne avec Benoît Hamon et des rencontres du candidat socialiste de 2017 avec ces jeunes au cours de sa campagne. Mais pourquoi taper sur Manuel Valls qui fait son retour en politique en France pour parler de la gauche ?
C'était avant son retour aux politiques que j'ai rappelé quelque chose qui est relativement simple, mais en effet, ça résonne avec son actualité, parce que Manuel Valls a dit il y a quelques jours « J'ai trahi, je ne vois pas pourquoi on me considère comme un traître ». Manuel Valls a fait quelque chose qui me semble symptomatique de la problématique de ce qui doit être un responsable politique aujourd'hui. Manuel Valls a pris un engagement sur l'honneur, puis il a pris le papier, il l'a déchiré au nom d'intérêts individuels, alors qu'on attend d'un ancien Premier ministre qu'il défende l'intérêt général. Un responsable politique...
Vous dites d'ailleurs qu'il a perdu son honneur et qu'il a mis en cause celui du Parti Socialiste tout entier. Il a sali la campagne présidentielle. Il a abîmé la démarche de tous ceux qui s'étaient rendus pour voter à la primaire des socialistes. Il a nourri la défiance vis-à-vis de la démocratie.
Je le dis parce que c'est vraiment ce qu'on a entendu. On a notamment des jeunes qui nous ont dit « Vous nous demandez de voter pour vous, mais vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas votre parole entre vous. » Or, ce qui est au fondement d'un engagement politique, c'est le respect de la parole donnée. C'est pourquoi, moi, je dis aujourd'hui, on doit s'interroger sur la manière dont on fait campagne et sur ce qu'on va proposer aux citoyens. Si on propose à nouveau, notamment à gauche, un catalogue d'engagements quinquennaux en connaissant le fait qu'on est dans une société d'incertitude, et on va multiplier les promesses, 300, 400, 500 promesses sans avoir la capacité de savoir si on pourra les tenir, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a intérêt à se réunir et notamment à construire avec les citoyens, parce que ça devra se faire avec les citoyens, un projet de société, choisir une boussole, choisir un horizon vers lequel on veut aller. Et c'est ça le sens d'un engagement politique. Et cet engagement-là devra être tenu. C'est ce que Manuel Valls n'a pas fait. Et c'est pour ça que je le rappelle, parce que ça fait du mal à la politique et ça fait du mal à la démocratie française.
Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
Il me semble que, bon, au-delà de du cas Manuel Valls, qui est en effet caractéristique de beaucoup de dérives, et la question est celle de la difficulté, depuis plusieurs décennies, la difficulté de la gauche à penser réellement ce qui est en train de détruire les sociétés occidentales. C'est-à-dire que Manuel Valls n'est qu'un symptôme d'une forme de ralliement à un néolibéralisme qui est profondément déstructurant. Et c'est en ça que ça rejoint un petit peu le propos de votre livre. Mais finalement, Il ne me semble pas que dans les autres courants du Parti Socialiste, on ait mieux compris cette question. C'est-à-dire la façon dont cette destruction de tous les liens qu'implique le néolibéralisme rend beaucoup plus difficile de penser le collectif. Or, vous avez un positionnement qui me semble lui aussi ne pas prendre en compte cela dans la mesure où vous positionnez les choses sur un plan de demande individuelle de considération plutôt que de restauration d'une structure collective qui permettrait à chacun politiquement de se vivre comme un citoyen autonome, responsable, membre d'une communauté politique. Est-ce qu'il n'y a pas de petit peu un point aveugle là-dedans?
Non, Natacha Polony, je pense vraiment qu'on a chacun un devoir et un droit. On a un devoir qui est de faire attention aux autres et le droit de recevoir une forme d'attention par rapport aux autres. Si on construit un projet politique autour de la notion de respect, ça nous permet aussi de repenser notre manière de tisser des liens sociaux, ça nous permet aussi de repenser notre manière de construire des solidarités individuelles et de construire des solidarités collectives. Et en ce sens, ce qu'on a vu depuis le début de la crise sanitaire en France, depuis le début de la crise du coronavirus, est extrêmement intéressant. On a vu se multiplier des nouvelles formes de solidarité. On a vu des personnes qui travaillaient dans des grands espaces de travail et qui tout d'un coup se sont dit « Ah mais les étudiants qui sont en train de s'isoler et de perdre leurs liens sociaux parce que les facs sont fermés, les étudiants, on va venir leur proposer de travailler dans nos espaces de travail pour leur redonner du lien social et pour pas les laisser
disparaître. » Oui mais ça ne change pas le système. C'est très beau mais ça ne remet pas en cause le cœur du système.
C'est pas beau, c'est du concret qui est en train de se faire. C'est des projets
à l'échelle des individus.
C'est des projets à l'échelle des individus, à l'échelle des associations, à l'échelle des quartiers, des immeubles, des villes qui sont en train de se construire. C'est des projets autour d'un principe de respect, de reconnaissance et de solidarité. Et si on agrège ces individus, on discute avec eux, on leur demande pourquoi ils ont fait cela, est-ce qu'ils veulent le faire à plus grande échelle, est-ce qu'ils veulent leur faire un projet de société, alors on se met à discuter et on peut créer un projet politique et on peut créer un projet politique.
Est-ce que ce projet, c'est celui du CAIR? Est-ce que ce projet, c'est celui du CAIR, et c'est-à-dire justement une forme de pansement?
Non, c'est pas uniquement celui du CAIR. On n'est pas seulement en train de dire on va mettre un pansement sur une plaie. C'est un projet de construction d'une société avec, un, l'attention à une égalité réelle et pas seulement une égalité promise. Deux, l'attention à des nouvelles formes de solidarité. Et trois, une parole publique qui soit une parole publique où on mette enfin fin à toutes les formes d'expression du mépris social.
La parole publique est à Gilles Finkelstein.
Merci Ali. Et je vais revenir justement sur cette question du respect de la parole publique et de ce débat qui... tension qui existe dans toute campagne électorale, et pas seulement pour la gauche, pour tous les candidats, entre ce que l'on appelle le projet et ce qu'on appelle le programme. Hein, le projet, c'est donner une vision de la société dans laquelle on veut vivre, expliquer les valeurs sur lesquelles on s'appuie, éventuellement fixer un certain nombre d'objectifs. Les programmes, c'est ce qui a été fait par beaucoup de campagnes depuis de nombreuses années. C'est la liste des 110, des 60, des 40 propositions. Vous dites, et je crois vraiment que c'est une idée qu'on peut défendre, une campagne dans les périodes d'incertitude dans lesquelles nous sommes, ça doit d'abord, si on veut que la parole publique soit respectée, être une campagne sur un projet. Ma question, c'est, est-ce que cet objectif est un objectif tenable ? Vous avez eu l'expérience d'une campagne présidentielle, j'en avais fait moi-même auparavant. La pression pour faire des propositions concrètes, pour expliciter ces propositions concrètes, vous l'avez eu par exemple avec le revenu universel, cette pression-là n'est-elle pas irrépressible ?
Qui était l'une des propositions phares de Benoît Hamon, pour ceux qui n'en ont pas le souvenir précis.
Voilà, oui. Donc cette pression-là n'est-elle pas irrépressible ? Est-ce que ce n'est pas une illusion de penser qu'on peut faire, malheureusement, qu'on ne peut pas faire campagne seulement autour d'un projet ?
Agathe Cagé.
Pour moi, c'est une question de choix, Finkelstein. C'est le même choix aujourd'hui qu'on a à faire, par exemple, sur est-ce qu'on se laisse contraindre sur les 280 signes que demandent certains réseaux sociaux pour exprimer une pensée extrêmement simplifié, plutôt que pour exprimer un projet un peu complexe. C'est le même choix qu'on a à faire face aux contraintes des chaînes d'information en continu. Est-ce qu'on s'exprime uniquement en éléments de langage et en phrases qui tiennent sur un bandeau, ou est-ce qu'on essaie de proposer une autre forme de parole aux citoyens ? Donc oui, ça sera difficile parce que vous avez la pression des médias, vous avez la pression d'un certain nombre de groupes d'intérêt qui vous demandent de répondre à tel sujet. Le problème, c'est qu'on a laissé par facilité les choses s'inverser totalement dans les dernières campagnes. C'est-à-dire qu'on a fait des listes de programmes avant même d'avoir un projet, c'est-à-dire avant même d'avoir un horizon qu'on construit et qu'on partage avec les citoyens.
Mais alors, comment, avec le recul, expliquer que Benoît Hamon n'ait recueilli que 6,3% des suffrages exprimés en 2017, ce qui était un score tragique pour le parti socialiste, et c'était la plus lourde défaite de la gauche depuis 1969. Comment, très simplement, aujourd'hui, avec le recul, expliquer cet effondrement à ce moment-là?
Ah, je ne referai pas la bataille de 2017.
Qu'est-ce que vous en avez tiré juste comme leçon pour envisager la prochaine, puisqu'on est à un an de la prochaine présidentielle, c'est pour penser à l'avenir?
Déjà, j'en ai retiré cette leçon. Là, je reparle de Manuel Valls, mais sur le fait qu'on doit avoir des responsables politiques qui se donnent comme première axe et éthique personnelle de respecter leurs paroles et de respecter leur engagement. Deuxièmement, je pense que s'interroger sur 2017, c'est aussi s'interroger sur la campagne d'Emmanuel Macron, sa victoire, et ensuite ce qui est en train d'être la défaite de son quinquennat. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a extrêmement bien fait campagne avec un certain nombre de messages relativement simples. Et puis ensuite, on a vu un quinquennat où un grand nombre de ses engagements sur les retraites, la lutte contre les pesticides, les néonicotinoïdes ont été remis en cause les uns après les autres. Et on a eu une forme de délitement qui s'est créée extrêmement vite et des formes d'explosion sociale avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est bien que notre manière de faire campagne, que ce soit une campagne qui a recueilli au final 6% des voix, que ce soit la campagne victorieuse du président de la République, ne permet pas ensuite d'avoir une pratique démocratique où on crée de l'adhésion, où on crée une forme de cohésion, où on crée un projet de société dans lequel les citoyens se reconnaissent et où on a une vitalité démocratique qui amène les citoyens aux urnes. Donc tentons de faire autrement, tentons de nous mettre d'accord en associant les citoyens sur un projet simple, un horizon simple. Je ne vais pas le définir moi-même, parce qu'il faut le définir collectivement.
Oui,
et ensuite, on mettra des mesures.
Gilles, justement.
Je termine peut-être sur cette question de respect.
L'émission touche à sa fin.
Oui, si j'inventais un sondage et que j'inventais les résultats, ce que je ne fais jamais, Ali le sait. Je suis à peu près certain que si on demande aux Français, est-ce que vous avez le sentiment de respecter les autres, une majorité d'entre eux répondrait oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les autres vous respectent? Je pense qu'il y aurait une majorité beaucoup plus grande encore qui dirait non. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans cette asymétrie le risque d'une frustration inévitable et d'une quête impossible autour de cette idée du respect?
Agathe Cagé.
Cet essai, c'est pour que chacun prenne conscience du fait que très facilement, on a tendance à ne pas respecter les autres, même quand on croit le faire. C'est que chacun prenne conscience au fait aussi du fait qu'avant de demander le respect pour lui-même, il devrait faire plus attention aux autres. Et c'est qu'on fasse tous conscience, qu'on prenne tous conscience qu'il y a une problématique très forte qui se pose pour les femmes, les ruraux, les personnes âgées, les personnes qui sont discriminées en fonction de leur origine. Bref,
si on regarde
de leur poids aussi, et donc de leur orientation sexuelle, de leur appartenance de genre. Bref, que si on regarde autour de soi, finalement, même si soi-même, on ne se sent pas victime d'indifférence ou de mépris, si on regarde ses parents, ses enfants, ses amis, on est collectivement pris dans cette problématique de manque de considération qui a à peu près envahi l'ensemble de notre société, et on peut y répondre par une forme d'engagement individuel et une forme d'engagement collectif.
Et vous citez Emmanuel Lévinas d'ailleurs pour compléter votre réponse à Gilles Finkelstein. Je le cite, je suis responsable d'autrui sans attendre la réciproque, dût-il m'en coûter la vie, la réciproque c'est son affaire. Fin de citation. Il nous reste 1 minute 30. Natacha, un mot encore pour clore l'émission.
Oui, la phrase de Lévinas est tout à fait juste, mais quand vous citez ceux qu'on ne regarde pas assez, vous faites tout de suite une collection. Les femmes, les ruraux, les gens qui sont différents, etc. Est-ce que le problème n'est pas, au contraire, de revenir à l'idée que c'est collectivement que nous devons penser une société d'égaux, une société de citoyens doués de droits? Plutôt que de regarder que si nous avons fait attention à telle catégorie ou à telle autre.
Agathe Cagé.
Nous devons collectivement penser une société d'égaux, et pour penser collectivement une société d'égaux, il faut accepter de estimer chacun dans sa différence et dans sa singularité. Parce que là, pour refaire un tout petit peu de philosophie avec Albert Camus, on est tous des êtres individuels, indispensables et uniques, et il faut accepter de dépasser la facilité de ne rechercher que les gens qui nous ressemblent pour construire ensemble une société avec l'ensemble des personnes dans toutes leurs différences. Et c'est pas du tout un appel à une forme de bisounours, c'est vraiment un appel à dire regardez, notre société va mal parce que notre société se délite du fait du manque de considération et du fait du manque de respect.
Ouais.
Et on peut construire un projet politique qui se fasse sur la base d'un retour au niveau individuel et collectif à une éthique du respect.
Merci en tout cas Agathe Cagé d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Respect avec un point d'exclamation, c'est aux éditions des Équateurs. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Henri Bérec. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à suivre sur Inter, le journal.